me salue. Voici la question. Comment manifester la joie dans un monde où la souffrance est trop souvent un lot quotidien, et quels sont les besoins prioritaires de notre époque auxquels on doit consacrer toute notre attention?
Je vous souhaite la bienvenue dans ce nouveau dialogue. Mais comme je le dis chaque fois à toutes les personnes que je rencontre, partout où je passe, ce n'est pas parce que je me présente et parce que je parle que vous devez forcément non seulement croire ce que je vais dire, mais en plus imaginer que je sois un maître ou un guide suffisamment lumineux pour que vous puissiez me donner toute votre vie et me suivre. Dans ce sens, je veux dire que lorsque l'on parcourt quelque part un petit bout de chemin dans la voie spirituelle, il ne faut pas s'imaginer qu'il y ait quelqu'un à rencontrer ou que l'on doive absolument appartenir à quelqu'un, comme le disciple pourrait appartenir à son maître ou le disciple pourrait appartenir à un ashram. La spiritualité est avant tout une grande libération et un phénomène de liberté. Donc vous n'avez en vérité personne à rencontrer. C'est pour cela que chaque fois que je rencontre des personnes, je leur dis et je précise que même si moi ainsi que d'autres frères, d'autres personnages, qu'ils soient considérés comme étant éminemment cosmiques ou simplement astraux, tous ces personnages-là ne parlent pas pour être crus, comme l'on croirait par exemple des dieux ou des demi-dieux. Ils ne travaillent pas non plus pour être suivis, comme l'on voudrait suivre une lumière capable d'être consolatrice. Si un verbe est donné, si un geste est donné, si une vibration est envoyée, ce n'est pas pour que cette vibration soit suivie, mais au contraire, pour qu'elle soit accueillie dans l'esprit de l'individu et quelquefois jusque dans le corps, afin qu'elle puisse y accomplir un changement. C'est pourquoi je demande toujours que les personnes réunies ne soient pas là pour m'écouter, mais pour accepter certains principes. De cette manière-là, ils arriveront à les mettre en œuvre dans la vie quotidienne, et c'est au niveau de la vie quotidienne ainsi transformée que les individus témoigneront ainsi de leur fidélité à la spiritualité, ou fidélité à un maître, ou fidélité à un ashram, ou fidélité tout simplement au bien du monde. Donc ne m'écoutez pas moi comme si j'étais un personnage, mais essayez de comprendre à l'intérieur de vous-même ce qui peut vous parler à vous-même, afin que votre vie dès demain soit différente, et non pas pour être meilleure, mais pour apporter un plus à l'humanité et vous permettre de faire un pas supplémentaire dans la spiritualité. Enlevez donc tout visage que vous aimeriez poser sur le mien. Enlevez aussi toutes les tonalités que vous aimeriez disposer sur la voix. Tout ceci, en fait, n'existe pas. Car si ces choses existaient, cela voudrait dire que je participe à une illusion. Or, mon principe est de combattre l'illusion. Je ne vais donc vous donner aucune image, aucun son, aucune voix, de façon à ce que seule résonne la voix de votre propre cœur. Et ce n'est qu'en écoutant la voix de votre propre cœur qu'à ce moment-là, vous pourrez aussi non seulement entendre la mienne, mais entendre celle de tous les autres frères, qu'ils soient de la hiérarchie planétaire, de la hiérarchie solaire ou d'ailleurs. Cela n'a aucune importance. Donc, que votre cœur soit ouvert et que votre esprit se ferme sur toute projection, sur toute identification. Là est un énorme danger. Nous ne parlons pas des maîtres, nous ne parlons pas de Shambhala, nous ne parlons pas des auras ou bien des chakras pour que l'homme fasse des projections. Si l'homme projette tout de suite à cause d'un renseignement, d'une information qui en était donnée, il déforme immédiatement le renseignement qui a été donné. Ce qui fait que, au lieu d'œuvrer au niveau du changement, le renseignement va petit à petit enfermer l'individu dans un schéma. Schéma qui va se cristalliser, cristallisation qui petit à petit va devenir tout simplement une prison. une tour carrée dans laquelle l'individu est enfermé. Et il se dit, pour aller vers Dieu, pour aller plus loin, pour évoluer, je vais alors continuer à construire ma tour. Et il construit sa tour, et qu'est-ce qui se passe? Il donne tout simplement des étages supérieurs à la tour, mais la tour est toujours là. Où est le problème? Le problème vient du fait que la tour enferme l'individu. Et lorsque l'individu est enfermé dans une tour, puisqu'il repose sur le sol, que voit-il du ciel? Il ne voit presque rien, parce que plus il bâtit sa tour, plus elle devient longue et plus elle va rétrécir le champ de vision. Alors qu'il lui semble bâtir une tour immense qui va pouvoir aller jusqu'au fond du ciel. Et au contraire, il crée un tunnel qui petit à petit rétrécit le champ de vision. Si bien que s'il pousse encore sa construction, au bout d'un moment, le ciel est complètement bouché. Parce que le tunnel n'est plus capable de laisser passer un seul rayon de lumière. Il en est ainsi pour tout individu qui se nourrit largement de toutes les informations, de toutes les instructions qu'il peut glaner de droite et de gauche. Et se nourrissant de ces informations, sans prendre la précaution d'évacuer de son mental les projections, il ne crée pas un pont vers l'avenir, un pont vers les maîtres, un pont vers la lumière, ou ne serait-ce qu'un pont à l'intérieur de lui-même. Il crée une tour qui de plus en plus rétrécit le coin de ciel qu'il croyait voir. Autrement dit, ce genre d'individu rétrécit son évolution au fur et à mesure qu'il lui semble la construire. Il était beaucoup plus évolué lorsque son mur n'avait qu'un mètre de hauteur. Et lorsqu'au bout de sa vie, le tunnel, au contraire, mesure des dizaines de mètres, il n'y a plus rien d'autre à faire qu'à détruire. C'est pourquoi il faut absolument que l'individu chasse du mental tout système de projection. Qu'est-ce que je veux dire quand je dis cela? Je dis tout simplement que lorsque les informations vous sont données, vous ne devez pas construire des schémas. Imaginez que c'est peut-être à peu près comme ceci, à peu près comme cela, que cela doit avoir telle ou telle couleur, tel ou tel goût, ou peut-être telle ou telle résonance, et que si je fais ceci, je vais forcément rencontrer cela, et que si je mange telle chose, je vais forcément développer cela. Tout ce genre de comportement appartient à la lignée des projections. La projection est la fabrication d'un mental qui n'est pas suffisamment discipliné et qui pourrait être encore trop inférieur et susceptible aux illusions. Pour donc faire un pas authentique et véritable dans la spiritualité, il ne faut pas tant essayer d'accumuler les informations, mais grâce à ces informations, de dépouiller en soi ce qui peut faire naître tout système de projection ou système de référence à des illusions. C'est pour cela que les informations sont données. On ne vous décrit pas, par exemple, ce qu'est Shambhala pour que dans votre tête, vous dressiez le paysage. Qui vous dit que lorsque vous allez rencontrer Shambhala, Shambhala va ressembler à ce que vous imaginez ou à ce que vous avez dressé dans votre tête comme paysage après ce que vous avez entendu? Shambhala peut être fort différent, et non pas parce que Shambhala sera différent, mais tout simplement parce que ce que l'homme projette est toujours nécessairement faux, puisque la projection n'a pas ses bases dans la vérité, mais dans la dualité et dans l'illusion. Il y a toujours une base d'ignorance, donc. Quels que soient les efforts d'imagination qu'un homme puisse faire, pour contempler Shambhala, pour contempler un maître ou Dieu, il sera toujours à des années-lumière de la vérité. Et d'autant plus il va construire la chose avec imagination, d'autant plus il sera éloigné de la vérité. Alors que s'il n'imagine rien, s'il se contente de savoir que la chose existe, et qu'il se moque de savoir si cette chose existe en rose, en vert ou en bleu, en forme carrée, en forme octogonale ou en forme de quoi que ce soit d'autre. du moment qu'il sait par essence que le principe de la chose existe et qu'il travaille sur ce principe, automatiquement il construit une pureté et une limpidité intérieure qui lui permettent de contempler ce qui est vrai. Car la contemplation viendra à ce moment-là. Donc, n'éparpillez pas votre mental dans toutes ces projections. Soyez soigneux quant à la façon dont vous digérez les informations. Partout à travers le monde occidental surtout, on s'aperçoit qu'il y a de véritables overdoses d'informations. Et ces overdoses créent quoi? Eh bien, comme les overdoses de la drogue, les overdoses d'informations créent de véritables mirages. De véritables mirages. Si bien qu'on se demande si finalement il n'y a pas eu plus de mal que de bien à donner un tel fleuve d'informations aux hommes. Car ils construisent des projections, des identifications qui sont à des années-lumière de la réalité que l'on essayait de décrire. Donc, je précise, sans que vous soyez pour autant obligé de me suivre dans mon comportement, vous pouvez très bien faire ce que vous voulez. Mais je précise seulement que dans le cas où vous voulez construire un pas spirituel authentique, il faut apprendre à dépouiller le mental des projections. Chaque fois qu'une information vous est donnée, qu'elle vous ouvre le cœur et qu'elle n'embarrasse pas votre tête. Si elle embarrasse votre tête, alors vous ne faites qu'ajouter des poids au corps de votre âme et vous n'allez nulle part. Au contraire, vous ne pouvez que sombrer davantage. Que le mot ouvre le cœur avant tout. J'ai pris le temps de faire cette longue introduction pour que ce soit votre cœur qui soit ouvert et non pas votre tête. Car comme je le dis si souvent, je n'en ai rien à faire de distribuer des informations. Je ne veux absolument pas enseigner. Je ne veux renseigner les hommes sur rien du tout. Plus l'on renseigne les êtres humains, et plus ils se distancent de Dieu et de la vérité. Seulement, il se trouve que pour pouvoir toucher du bout du doigt le doigt de l'homme qui est de l'autre côté de la vie, il faut quelquefois utiliser la tête et utiliser le verbe. Alors je précise, j'utilise le verbe d'accord. Et beaucoup de frères utilisent aussi le verbe. Mais vous soyez correct vis-à-vis du verbe. Lorsque vous écoutez, n'amenez pas votre tête dans l'écoute, mais amenez votre cœur. De cette façon-là, nous pourrons distribuer toutes les informations du cosmos. Il n'y aura aucun danger. Ni pour vous, ni pour nous. Maintenant, nous allons passer à la question qui a été posée. Comment être joyeux dans ces temps difficiles? L'homme croit toujours qu'il appartient à une époque difficile. Cependant, vous êtes allé à l'école et vous vous rappelez très bien des cours d'histoire que vous avez pu suivre. Et lorsque l'on remonte le temps, on jurerait bien qu'au contraire, les temps difficiles, c'était autrefois. Autrefois, lorsqu'il y avait la peste partout, le choléra partout, lorsqu'une maison pouvait brûler comme une maison de paille parce que tout le monde ne s'éclairait qu'à la bougie, parce qu'il y avait des champs de bataille partout, parce qu'il y avait la famine et parce qu'il y avait une monarchie, parfois trop sanglante ou trop sectaire. Donc, il faut bien comprendre qu'il est dans la nature humaine de toujours se plaindre de l'instant que l'individu vit. Je ne me souviens pas du malheur que j'ai eu hier. Bien sûr, si je fais un effort, je me rappelle la souffrance, mais je ne me souviens pas exactement de ce que je vivais, comment je le ressentais. Si bien que les années 50 me paraissent tout simplement les années du rock'n'roll, même si ça a été l'année de ma fausse couche, même si ça a été l'année de mon divorce. C'était avant tout les années du rock'n'roll, que c'était bien les années 50. Et aujourd'hui, ce sont les années de quoi? Eh bien, ce sont les années du sida, les années du déclin économique, les années de la construction de l'Europe qui, soi-disant, s'annonce mal. Alors, il semble que les mauvais temps, ce soient les temps d'aujourd'hui. Mais il faut bien comprendre que cela appartient à la psychologie humaine. on se plaint toujours de l'instant présent. Ce qui ne veut pas dire que l'actuel est joyeux. Je ne veux pas dire que l'actuel soit joyeux. Je précise tout simplement que une part de la souffrance actuelle est vue de manière plus aiguë parce que l'homme est toujours de façon plus précise concentré sur ce qu'il ressent présentement, en négligeant ce qu'il a pu ressentir de 10 000 fois supérieur en souffrance si c'était hier ou avant-hier. C'est vrai qu'il y a des temps de souffrance. Et pour répondre à la question, je ne pourrais pas répondre sur la nature de la joie si je ne réponds pas sur la nature de la souffrance d'abord. Donc, analysons ce qu'est la souffrance. Lorsque l'on contemple ce monde, on pourrait se demander pourquoi est-ce que nécessairement la forme de vie et son expression doivent endurer la souffrance. Pourquoi est-ce que tout s'articule par la douleur? Pourquoi est-ce qu'il y a des maladies? Pourquoi est-ce qu'il y a des guerres? Pourquoi est-ce que lorsque je suis disciple ou initié, je dois aussi surmonter cette douleur et des douleurs qui sont pires que la douleur du corps physique par la maladie parce que ce sont des douleurs intérieures? Comment se fait-il que tout passe par cette forme-là que l'on appelle la douleur? Je dirais que le concept est très étrange dans ce sens où la notion de douleur est existante à partir du moment où une valeur morale et une valeur mentale s'attachent à la contemplation de l'événement qui a lieu. C'est-à-dire que si j'imagine un corps physique qui soit vivant, mais qui ne dispose pas d'une réalité morale et mentale, ce corps physique contracte une blessure ou une maladie et se met à endurer la conséquence de cette blessure. Pour celui qui sait lire l'aura ou qui sait un tant soit peu ressentir la vie qui se dégage de cette forme-là, pour celui-là, la découverte sera stupéfiante, c'est que la douleur n'existera pas. La notion de douleur sera absolument inexistante, même si le corps véritablement semble endurer la blessure. La douleur est donc quelque chose qui devient réalité, devient sentiment, réaction du système nerveux, du système sensitif et émotionnel, lorsqu'il y a une conscience pour contempler une disharmonie qui s'est placée quelque part, soit dans le corps physique, soit dans un des corps subtils. Et au contact de ce dialogue avec cette disharmonie, la conscience se met dans un état de souffrance. Alors cela veut dire que la souffrance en tant que phénomène physique n'existe pas. Par contre, la souffrance en tant que contemplation et sensation d'une disharmonie, cette souffrance-là, oui, elle existe. Et c'est face à cette souffrance-là qu'est confronté le thérapeute, qu'est confronté le psychologue, qu'est confronté l'exorciste ou le guide qui essaye de bouger un petit peu la personne qu'il a en face de lui. Lorsqu'il y a donc captation de la souffrance, c'est grâce à tout le système, à tout le réseau sensitif et tout le réseau moral et mental que la conscience est capable d'articuler pour prendre connaissance d'une réalité qui a lieu, soit sur un plan physique, soit sur un plan astral, soit sur un plan mental. Donc il faut bien comprendre que la souffrance en elle-même, cela n'existe pas. Par contre, la conscience va souffrir en contemplant une situation qui n'est pas harmonie, qui n'est pas limpidité, qui n'est pas réception de toutes les énergies solaires. La souffrance, là, elle existe. La souffrance est donc un voyage intérieur. C'est un dialogue de la conscience vis-à-vis des différents plans où il n'y a plus ou pas d'harmonie. C'est un phénomène qui est à l'intérieur de chaque individu et qui ne se trouve pas à l'extérieur. C'est-à-dire que le monde n'est pas ouvert aux hommes comme étant une vallée de larmes ou un plateau de souffrance sur lequel nécessairement tous les hommes vont souffrir. Parce que c'est la terre qui le veut, parce que c'est la race qui n'est pas capable de vivre autre chose. Ceci est faux. Ce qui est tout à fait juste, c'est que, considérant le type d'évolution d'une planète, le type d'évolution d'une race, et le type d'évolution d'un individu, un certain nombre de disharmonies vont prendre place. Et quand la conscience va entrer en incarnation, et qu'elle va contempler ces ruptures, il va y avoir une souffrance qui va se créer. Cette souffrance est à interpréter de quelle manière ? Puisque je parle d'une souffrance intérieure, il faut donc savoir que ce que l'être va éprouver, c'est une sorte de résistance à faire passer son rayonnement. Il faut imaginer l'être comme étant, je vais prendre des images très simples pour que vous compreniez la source de la souffrance. Imaginons l'être comme étant par exemple une grande roue, un grand soleil avec 7 rayons. Dans chacun de ces 7 rayons doit absolument et nécessairement passer des énergies typiques, différentes donc les unes des autres. Si pour une raison quelconque, la grande roue de l'être n'arrive pas à faire circuler les énergies qui se trouvent dans chaque rayon et à les faire circuler dans chaque rayon correspondant dans la petite roue de la personnalité ou du corps mental ou du corps astral ou du corps physique. Automatiquement, ce manque d'alignement va créer des résistances, c'est-à-dire qu'il va y avoir la grande roue de l'être qui va envoyer des énergies. Cette énergie va commencer à descendre. Puis en bas, prenons par exemple le corps astral, la petite roue qui est composée elle aussi de 7 rayons va vibrer ou tourner de telle manière qu'elle n'arrive jamais à s'ajuster avec le rayon dont elle doit recevoir l'énergie. Et automatiquement, il va y avoir des résistances qui vont se créer. C'est-à-dire que la grande roue de l'être va être obligée de ralentir, de freiner pour essayer de rattraper la petite roue qui, elle, essaiera d'accélérer ou qui ne comprend rien à l'histoire et qui tourne très très vite ou pas assez vite. Ce qui fait qu'il y a une sorte de va-et-vient entre les roues avec une grande résistance. Et pour ceux qui connaissent quelque chose en électricité, vous savez tout de suite que dès qu'il y a résistance, il y a échauffement. C'est comme cela que fonctionne, par exemple, le fer à repasser. Dès qu'il y a échauffement, il y a brûlure. S'il y a eu résistance dans le corps astral, il va y avoir brûlure dans le corps astral. Brûlure sur un pétale précis d'un chakra ou dans tout le chakra. Et brûlure à l'organe physique qui correspond. Si bien qu'un beau jour, eh bien, l'individu arrive chez son médecin et dit « Mais j'ai mal à l'estomac, c'est fou ce que je peux souffrir, libérez-moi de ça !» Bien sûr, il y a des éléments très physiques qui peuvent donner mal à l'estomac. Mais lorsqu'il y a une telle brûlure dans le corps astral parce que les rayons ne sont pas suffisamment alignés pour fonctionner clairement, joliment, eh bien, un beau jour, cela finit par brûler de partout. Et cette brûlure est une brûlure qui existe, qui est perçue par le corps astral exactement comme si je venais vous brûler physiquement. Si je vous brûle maintenant, vous allez sentir la brûlure sur le corps. Vous allez sentir la chair souffrir. Vous allez sentir la chaleur, les nerfs réagir. Vous allez sentir partout vous envahir une sensation de souffrance et de torture. Lorsqu'il y a cette brûlure sur le corps astral ou sur le corps mental, la brûlure est perçue aussi de la même manière. Mais que se passe-t-il ? Il se passe que vous n'êtes pas conscient de votre corps astral. Vous ne sentez pas votre corps astral. Vous sentez votre corps physique, Vous connaissez sa température, sa dimension, son poids. Vous savez quand on vient le toucher, ou vous savez quand il se blesse. Et votre corps astral, vous en êtes relativement inconscient. Vous subissez les émotions que vous générez, ou les émotions que vous ramassez dans une salle, ou dans un supermarché, ou en contemplant une œuvre d'art, mais vous ne connaissez pas votre corps astral. Et c'est d'ailleurs pour cela que vous avez énormément de mal à le contrôler, à le maîtriser, à le dilater, à le purifier. Si donc vous n'avez pas conscience de votre corps astral, quand il va y avoir une brûlure dans l'astral, vous n'allez pas savoir que c'est une brûlure dans l'astral. Vous allez ressentir l'effet second, donc la projection de cette brûlure sur le plan physique ou sur le plan émotionnel, concret celui-là. C'est-à-dire que vous allez vous apercevoir que quelque chose ne va pas dans vos émotions parce que systématiquement, vous allez vous sentir ou agressé ou que vous allez agresser quelqu'un. Ou bien une impatience va naître, ou bien des cauchemars vont avoir lieu la nuit. Mais tout ceci vous sera rendu perceptible lorsque vous en serez à recevoir l'effet second, qui équivaut déjà à la projection dans la matière et la psychologie. Donc on ne comprend pas qu'il y a brûlure dans le corps astral. Parce que tout ce que l'on voit par exemple de la brûlure, c'est le cauchemar qui a lieu la nuit. Le cauchemar ne semble pas brûler. Et pourtant s'il y a cauchemar, il y a brûlure dans le corps astral. Donc, que faut-il faire? Si l'on veut régler ce genre de souffrance, il faut avant tout rafraîchir le corps astral. Exactement comme l'on calme une brûlure. Et c'est pour cela que pour toutes les guérisons qui doivent être opérées au niveau du corps astral, on utilise amplement l'eau. L'eau, dans sa dimension éthérique, permet d'apporter un immense soulagement de la brûlure astrale. Ce qui fait que l'on calme la brûlure, en passant de l'eau, ou en exorcisant avec l'eau, ou en bénissant avec l'eau, ou en baignant les individus. Et ensuite, on peut, de façon simple et efficace, aligner l'individu, de manière à ce que les deux axes des deux roues finissent par s'entendre et reçoivent et se renvoient réciproquement les réseaux d'énergie. Pour que cet alignement soit conservé, il faut bien sûr que l'individu fasse un certain nombre de choses, observe des règles ou éventuellement même admettre des changements dans sa vie intérieure ou dans sa vie privée ou dans sa vie professionnelle. Donc, lorsque l'on parle de souffrance, il faut bien comprendre que tout ce que vous connaissez de la souffrance, c'est l'effet second déjà très physique ou très psychologique. Et si l'on ne contemple que cet effet second, on n'arrive pas à comprendre ce qu'est la racine. Donc on ne connaît pas la nature de la souffrance. Et c'est pour cela que l'on a une peine immense à régler le problème de la souffrance et à faire de la Terre une planète de joie. Parce que l'homme va colmater le niveau où s'effectue l'effet second. Mais là n'est pas la racine. Il faut calmer la brûlure. Si par exemple à cause d'un ulcère, je prends des médicaments, j'agis sur l'effet second, je ne calme pas la racine, automatiquement la brûlure va continuer et dans mon corps astral et dans mon corps physique. De la même manière pour toutes sortes de dérèglements qui vont jusque sur le plan psychologique ou sur le plan affectif, voire même sur le plan professionnel souvent. Donc, au lieu de se demander pourquoi nécessairement la vie est souffrance, pourquoi nécessairement je dois enfanter dans la douleur, pourquoi nécessairement je dois gagner le pain à la sueur de mon front, c'est ce qui est écrit dans la Bible. Et l'homme, lorsqu'il contemple ces phrases-là, tape sur la table et dit « mais ce n'est pas possible ». On m'a envoyé sur une terre où depuis le début, déjà, Dieu savait que ça tournerait mal. Il l'a marqué.
Tu enfanteras dans la douleur et tu gagneras ton pain à la sueur de ton front. C'est une honte. Depuis le début, tous les archanges, tous les anges, tous les devas, tous les kumaras de l'univers savaient que ça irait mal pour moi. Et ils sont tellement pleins d'amour, ces grands anges aux grandes ailes, qu'ils m'y ont envoyé quand même. Alors vous comprenez, monsieur, madame, ne me parlez plus du bon Dieu. Je n'ai pas le temps, puisqu'il n'a pas daigné m'envoyer dans un paradis pour que son enfant y vive en toute santé et sans problème. C'est ce que pensent la plupart des gens. Et ils ont raison de penser de la sorte. Pourquoi? Parce qu'il est certain que si on lit ces deux phrases trop à la lettre, on a l'impression que l'humanité est tombée sous le joug d'un châtiment divin ou sous l'indifférence divine. Un dieu qui aurait fabriqué la terre et puis s'est dit « Oh non, c'est trop de problèmes, trop de travail. Il faut la faire tourner, il faut créer les quatre saisons, il faut faire venir de la pluie, retenir la grêle, sans compter qu'il faut faire couler les rivières. Non, je préfère dormir dans mon éternité. Bon, trop tard, j'ai créé Adam et Ève, ça m'a échappé. Ben, ils devront se débrouiller, tant pis. Je leur mets quelques pommes, un peu de blé, ça ira. » Que faut-il comprendre donc lorsque l'on lit ces phrases? Lorsqu'on lit ces phrases, il faut comprendre que il ne s'agit pas de personnes physiques. Lorsque tu enfanteras dans la douleur, il n'est pas question de toi. Lorsque tu gagneras ton pain à la sueur de ton front, il n'est pas question de toi et de ton labeur quotidien. Absolument pas. C'est pourquoi je veux te réconcilier avec Dieu. Car si tu sais lire la Bible, tu seras réconcilié avec Dieu et avec tous les principes d'évolution que tu pourras alors manipuler comme des jeux d'enfant et tu arriveras à faire ce que tu veux du cosmos et de la terre. Mais tant que tu ne sais pas à qui la Bible s'adresse, tu ne sais pas non plus t'adresser à la Bible qui contient toutes les clés pour aller au ciel. La Bible s'adresse à qui? Si ce n'est pas à toi, à ton unité personnelle, physique, c'est qu'elle s'adresse donc à ton âme. Tu enfanteras dans la douleur. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela rejoint notre discours sur la souffrance. Tu enfanteras. Croyez-vous que Dieu ait pris la peine d'inspirer aux sages de telles phrases pour préciser que l'accouchement se ferait dans la douleur? Absolument pas. D'autant plus qu'il y a eu des époques où les hommes et les femmes, ou disons l'être humain, n'accouchaient pas comme cela a lieu aujourd'hui. L'être humain se créait de façon différente. Mais c'était une autre époque, où les hommes n'étaient d'ailleurs pas encore assez cristallisés comme l'homme apparaît aujourd'hui. Donc il ne s'agissait pas d'accouchement, il ne s'agissait pas d'enfanter les enfants, mais il s'agissait bien d'enfanter l'enfant Christ qui est en chacun, soit devenir un véritable Dieu céleste. De quel enfantement s'agit-il? Il s'agit en fait de votre statut divin que vous devez découvrir à la fin de votre évolution, et qui est l'équivalent de ce que d'autres initiés appellent la renaissance, ou bien tout simplement la naissance spirituelle. Tu enfanteras dans la douleur. Pourquoi dans la douleur? Tout simplement parce que les pères de l'humanité savaient très bien qu'en projetant les atomes de conscience dans la matière, il allait immanquablement se passer des phénomènes d'identification. Comme je l'ai dit tout à l'heure, dès qu'il y a contemplation et identification, automatiquement il y a souffrance. Dans la mesure où l'objet avec lequel on s'identifie n'est pas dans une parfaite harmonie, il y a souffrance. Tu enfanteras dans la douleur, cela veut dire quoi? Cela veut dire que tu renaîtras de l'esprit par les épreuves de la matière et de l'illusion. Lorsque tu te seras battu avec le chant de l'illusion, tu mettras au monde un nouveau roi dans le ciel, toi-même, ton propre roi. Mais cela n'aura pas lieu sans douleur. Attention, mon fils. Ne crois pas les mirages, ne crois pas les illusions. Écoute toujours la voix de l'Éternel. Ce n'était pas une sentence qui était donnée, formulée là. C'était plutôt une façon de prévenir les hommes. Ensuite, qu'est-il dit ? Il est dit que lorsque l'homme aura vaincu suffisamment l'illusion et tout le domaine de la matière, lorsqu'il s'y identifie, car il n'y a piège d'illusion que s'il y a identification, lorsqu'il aura vaincu tous les pièges de la matière, il pourra se soulever hors du domaine physique, contempler son Christ intérieur. Et c'est là tout le symbole avec la crèche de Noël. La naissance de l'enfant Christ, c'est en fait la naissance du Christ roi en chacun des hommes. Mais bien sûr, le Christ roi vient de naître. Alors, il semble être un enfant. Et lorsque vous arriverez à cette étape de l'évolution, vous comprendrez pourquoi il est nécessaire que le symbole de l'enfant soit pris. Tout simplement parce qu'une âme, même arrivée à ce point apparemment grand de l'évolution, n'en demeure pas moins une âme enfant. Mais cette fois, c'est une âme pure. Redevenez pure comme de jeunes enfants, a dit Jésus. C'est en faisant référence à cette étape qu'il a prononcé cette phrase. Cette fois, l'âme est pure, même si elle est toujours une enfant. Elle est pure. Pourquoi ? Elle est pure pourquoi ? Et elle est pure de quoi ? Purifiée de quoi ? Elle est purifiée des éléments de l'identification que crée l'homme. Où il se dit « je suis Pierre, Paul ou Jacques, je suis ingénieur, je suis grand chimiste, ou bien je suis un grand chercheur en spiritualité, ou bien moi je suis un grand voyant de l'aura, ou moi je suis un grand voyageur de ceci, je connais la terre entière, je suis le plus grand journaliste. » Chaque fois qu'il y a identification, il n'y a plus création de la naissance de l'enfant Christ. Il y a au contraire création du vieillard. Et le vieillard, lui, se cristallise parce qu'il est vieux. Il cristallise, il se courbe et un jour il meurt. Et c'est ce qui se passe avec les hommes. C'est ce qui se passe avec les races. Sitôt que la conscience dit « Je suis Pierre, je suis chimiste, je suis marié, j'ai des maîtresses, ma vie est belle, je suis heureux. » Chaque fois que la conscience va jouer ce jeu-là, au lieu de développer l'enfant Christ et d'aborder une sorte d'éternelle jeunesse, l'individu cristallise ses énergies et crée le vieillard. Et immanquablement, il est amené vers la vieillesse. Et pas simplement la vieillesse physique, celle-là, mais la vieillesse morale, la vieillesse mentale, la vieillesse de l'être. Si bien que lorsque l'individu a vécu plusieurs incarnations de cette façon-là, il faut régulièrement que nous envoyions ces êtres-là récupérer des forces en les envoyant en incarnation dans des endroits où il n'y a apparemment plus de vie telle que l'on l'entend lorsque l'on est suffisamment développé, par exemple comme à l'occidental. Cela semble être une vie tribale. Et au niveau des tribus à l'heure actuelle, il y a énormément d'égos que l'on pourrait considérer comme avancés parce qu'ils ont de nombreuses incarnations, mais ils n'ont utilisé ces incarnations que pour construire un vieillard. Et ce vieillard-là dévitalise l'âme. C'est-à-dire que si on laissait les incarnations se poursuivre de cette manière-là, il y aurait une telle dévitalisation de la conscience que la conscience en arriverait elle-même à mourir. Et elle se détacherait de son principe supérieur que l'on appelle la monade et il n'y aurait plus rien. La course est terminée. Donc, pour éviter cette dévitalisation excessive, à un moment donné, ce que l'on peut nommer les seigneurs du karma, par exemple, ou les anges gardiens, détermine une incarnation où l'homme va être coupé de tout ce qui peut approcher l'activité mentale qu'il a connue jusqu'à présent. Et on l'envoie pour être soit un commis ou un métayer dans l'arrière d'une campagne où il n'aura même pas l'occasion d'aller à l'école, soit il est envoyé pour s'incarner sur les plateaux de l'Afrique profonde ou de l'Australie profonde ou d'autres plateaux, par exemple en Amérique du Sud, où la vie reste assez sauvage et traditionnelle par rapport au passé. Donc il est capital que l'homme apprenne à conserver sa jeunesse intérieure, la jeunesse de son âme, la vitalité de son âme, car l'âme est quelque chose qui s'épuise. Il ne faut pas croire que l'âme a quelque chose d'éternel. L'âme s'épuise. Si elle est toujours exploitée de façon à être cristallisée, elle perd ses énergies. La personnalité équivaut en ce sens à une sorte de gouffre qui engloutirait tous les soleils de l'univers. Les maîtres ne peuvent pas admettre la chose, alors à un moment donné, on bouche le gouffre et on le remplit d'eau, de façon à ce que l'illusion de sa profondeur disparaisse et que l'individu ne s'intéresse plus qu'à la clarté du soleil qui se trouve au-dessus. Tu gagneras ton pain à la sueur de ton front. Qu'est-ce que cela veut dire ? Comme dans le cas de la première phrase, tu enfanteras dans la douleur, il n'est pas question de décrire le type de vie sociale et professionnelle que vous allez avoir en vous incarnant. Car il serait vraiment tragique et abominable qu'un Dieu soi-disant plein d'amour, plein d'abondance et d'égard envers ses enfants, ait imaginé depuis le début un monde où l'homme serait martyrisé pour la seule victoire de retrouver le Père. Et comme je l'ai dit si souvent, si un tel Dieu existait, je vous assure que je serais le premier à le combattre, exactement comme l'on combat un dragon ou une bête malfaisante. Car imaginant un tel plan, un tel Dieu serait véritablement un diable. Et pour le peu de lumière que je crois pouvoir posséder, ce peu de lumière-là m'indique que si ce Dieu-là existait, j'aurais le devoir de l'anéantir. Si donc, au contraire de l'anéantir, je nourris sa vie et participe à sa vie et essaie de sensibiliser les races à sa vie, c'est bien parce que le Dieu de lumière est complètement différent. Le Dieu de lumière n'a absolument pas jugé ses enfants, n'a absolument pas décidé que ses enfants allaient souffrir ou peiner lourdement pour gagner le pain quotidien. De quel pain s'agit-il? S'il ne s'agit pas du pain physique, il s'agit donc du pain de l'âme. La nourriture de l'âme. La lumière, donc. Tu gagneras ta lumière à la sueur de ton front. Qu'est-ce que cela veut dire? Eh bien, cela veut dire que pour devenir lumineux, pour être cette lumière vive et consciente d'elle-même, ayant par là même toutes les puissances, il faut que l'individu construise ce pont qui va vers la lumière. Il faut que l'individu construise ses habits de lumière. Personne d'autre ne pourra le faire à sa place. Et c'est pourquoi on pourrait dire « Tu gagneras ta lumière à la sueur de tes efforts. » Mais il est plus précisément marqué de ton front. Et il est intéressant de parler du front à cette étape du discours. Qu'est-ce que cela veut dire? Essayez de réfléchir un petit peu. Puisque vous n'êtes pas là pour m'écouter, mais pour ouvrir le cœur, essayez de réfléchir avant que systématiquement je vous donne les réponses. Jouez avec moi. N'imaginez pas que je ne vous entende pas. À la sueur de ton front, on sait très bien qu'au niveau de la tête se placent deux chakras très importants. Un chakra que l'on dit frontal, que l'on appelle aussi le troisième œil, ainsi que deux autres petites portes qui le suivent et qui sont comme les aspects supérieurs du troisième œil, et le chakra coronal. La sueur. Que représente la sueur? Si l'on prend les débuts du chemin spirituel, on va facilement comprendre qu'il s'agit donc des efforts. Mais très vite, on va s'apercevoir que dans les premiers pas, l'effort est nécessaire, mais qu'après, il n'est plus du tout question d'effort. Donc, que symbolise la sueur? Regardez sur votre corps ce qu'est la sueur. C'est une goutte d'eau, une perle d'eau, qui contient tous les sucs du corps. Du corps duquel l'eau est sortie. Dans une goutte d'eau, dans une goutte de sueur, il y a tous les sucs que l'on trouve dans le corps. C'est donc comme une sorte d'extrait des substances du corps. Lorsque je sue, et ceci de façon spirituelle,